Martino.
Cube Radio. Le commentaire de
Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
Oh, cher Emmanuel, toi qui as des antennes qui te permettent de communiquer avec toutes sortes de sources, qu'est-ce que notre PM va nous annoncer à 17h? C'est la grosse question que tout le monde se pose aujourd'hui.
Oui, la grosse question. Mais moi, je pense, premièrement, il va falloir que le gouvernement réponde aux questions substantielles qui ont été soulevées sur les ratés de la vaccination en fin de semaine, là. Et ça va passer par un plan pas mal plus clair. Et moi, je soulève la question, est-ce qu'il ne faut pas ajuster le plan de vaccination? Parce que on le voit un peu partout, les éclosions sont dans les écoles, dans les milieux de travail. Et moi, je veux bien vacciner par âge, là. Mais est-ce qu'il ne faut pas commencer par vacciner les gens qui travaillent, les enseignants, les gens qui travaillent dans les épiceries, les gens qui travaillent dans le secteur manufacturier, dans les usines de transformation alimentaire, tu sais, dans les entrepôts d'Amazon? C'est dans ce genre de lieu-là là, que le variant fait des ravages hallucinants, là, tu sais? Quitte à ce qu'on retarde là, un peu la vaccination des personnes de 55 ans ou quoi que ce soit, là. Puis, on a déjà vu aussi, est-ce que le gouvernement va être obligé de répondre à la question existentielle qui a été soulevée depuis vendredi, c'est est-ce qu'on resserre préventivement les règles à Montréal et dans l'ensemble du Québec? Parce que quand on regarde les chiffres de la fin de semaine, on se dit, ah, ben, c'est pas si pire, 1200. Ouais, mais c'est le même nombre que vendredi, mais avec le tiers moins de tests de réaliser.
Et toi, on le sait, là, les auditeurs le savent, tu viens en Ontario, écoute, là, ils vont resserrer l'Ontario, ça regarde pas bien.
Là. Ben, l'Ontario, c'est parce que, en tout cas, mon livre à moi, le gouvernement a fait du grand n'importe quoi. Là. On appelle ça un lockdown, un confinement, mais tous les commerces sont ouverts, à capacité réduite. On n'a pas profité. Il y a une chance extraordinaire en Ontario. La semaine de relâche est la semaine prochaine. De fermer les écoles 4 jours cette semaine, là, c'était pas un gros prix à payer pour avoir une pause de 2 semaines dans les écoles.
Ben oui.
Et là, il y a des sommets d'hospitalisation dans les soins intensifs. Donc, le diable est aux vaches, dirait-on, en Ontario, où les critiques à l'égard du gouvernement sont très, très, très sévères parce que les règles qui ont été annoncées, c'est des règles marginales. Tu sais, les gens, il n'y a pas d'obligation de rester chez soi, les commerces sont ouverts. Et là où il y a l'épicentre de la pandémie, Toronto, la région de Peel, la seule différence, imagine, c'est que les terrasses des restaurants sont fermées. Alors, à un moment donné, moi, je ne suis pas une fan du confinement, là, j'en peux plus comme tout le monde, mais est-ce que c'est pas le temps de dire, en un mois, on ferme tout, on resserre, c'est plate, mais c'est la vie, puis comme ça, on va se rendre au mois de mai, puis on va avoir réussi pendant le mois d'avril à vacciner tous les travailleurs essentiels.
Mais comme tu dis, là, qu'est-ce qui est plus important? Quelle personne est plus importante à vacciner? Un retraité qui reste chez eux puis qui travaille pas, ou quelqu'un, un professeur, ou tu sais, c'est sûr et certain qu'il va falloir revoir les priorités. Là.
Ben, à un moment donné, moi, j'ai l'impression que oui, puis surtout dans les grands centres où là, il y a énormément d'usines, de gens qui travaillent très à proximité les uns des autres, parce que les éclosions sont beaucoup plus difficiles à contrôler. Et elles ont des effets néfastes parce que papa revient du travail avec la COVID, c'est l'ensemble de la famille qui infecte et c'est l'ensemble de la famille qui risque de se retrouver à l'hôpital. Et c'est ça l'espèce de facteur exponentiel qui vient changer la donne dans les méthodes de gestion de la COVID. Et là, on n'a pas réussi à sauver Pâques, on ne sauvera pas la fête des mères. La priorité, c'est de sauver l'été. Et puis si on ne réussit pas à prendre rapidement le contrôle de ça, la réalité, c'est que ça va mettre en péril les camps de vacances pour les enfants cet été. Donc, ça va aussi prolonger les maux de la pandémie sur les enfants qu'on veut protéger, qu'on veut essayer de pas d'immuniser, mais sur lesquels on veut le plus rapidement possible limiter les impacts néfastes de cette pandémie-là, tu sais.
Tout à fait, non. On se croise les doigts. J'ai très hâte de voir ce qu'il va annoncer. Et écoute, il faut absolument se parler de Simon-Jolin Barrette parce que tu poses une excellente question. Est-ce qu'il il va rater son rendez-vous avec l'histoire?
Ben, c'est la grande question, parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend que plus le temps passe, il a réussi à mobiliser l'opinion publique d'une manière quand même assez extraordinaire autour de l'importance de la défense du français. Mais il y a un prix, il n'y a pas un prix politique, mais il y a un prix stratégique à payer pour ça, c'est que les attentes sont très, très, très élevées. Et quand on regarde les chiffres qui ont été révélés la semaine dernière par l'Office québécois de la langue française, la réalité, c'est que c'est pas en imposant la loi 101 aux entreprises de juridiction fédérale que tu vas vraiment freiner ce déclin-là du français à Montréal. Ça prend des gestes très, très forts. Et il y a un problème qui se pose, c'est la question des cégeps. Je sais que je fais pas l'unanimité. J'ai longtemps défendu qu'on devait permettre le droit d'aller au cégep dans la langue de notre choix. Mais si on arrête et qu'on y pense, c'est quoi le cégep? Il y a juste au Québec où on traite ça comme des études supérieures.
Ben oui.
Le cégep, c'est un prolongement du secondaire.
Ben, tout à fait.
Et deuxièmement, la raison pour laquelle les cégeps ont un poids démesuré dans l'enseignement postsecondaire par rapport à la proportion d'anglophones, c'est oui, il y a des francophones qui vont au cégep pour parfaire leur anglais. Mais le nœud du problème, c'est que c'est des allophones qui ont fait toute leur scolarité en français et qui vont au cégep pour finalement migrer le reste de leur vie vers l'anglais. C'est là que ça pose problème. Et de deux, il y a le cégep technique, mais où objectivement, les gens étudient en anglais pour aller travailler en anglais, comme infirmière, comme technicien. Et donc, c'est devenu un outil d'anglicisation de la future main-d'œuvre. Et c'est là que ça pose un sérieux problème parce que en plus les cégeps anglophones admettent des étudiants qui ont une plus haute cote R, donc ils appauvrissent le réseau francophone des cégeps. Donc on a vraiment un réseau qui est à deux vitesses selon des lignes linguistiques qui est en train de s'imposer. Mais c'est le truc sur lequel le gouvernement veut pas agir parce que c'est controversé, parce que ça a longtemps été associé au Parti québécois. Alors là, M. Jolin Barrette va avoir l'obligation de démontrer qu'il est capable d'arriver aux mêmes fins, mais sans utiliser l'outil le plus accessible qu'il a.
Est-ce qu'il est isolé dans son parti? Parce qu'on sait, c'est une coalition, il y a des bleus puis il y a des rouges là, au sein de la CAQ, là.
Mais moi, si tu me demandes, mon intuition, c'est que lui l'aurait fait, mais qu'il n'y a pas le consensus, parce que cette idée de bilinguisation des jeunes est devenue tellement forte dans la société montréalaise, en particulier, au sein des élites qui gouvernent, etc., que c'est vu comme priver les Québécois du droit d'apprendre l'anglais que de leur interdire d'aller au cégep en anglais. Alors, objectivement, le problème, c'est que les cours d'anglais au secondaire sont pourris, ben qu'on arrange les cours d'anglais au secondaire, là. Tu comprends? Puis il y a plein de jeunes qui vont au cégep en français puis qui poursuivent leurs études en anglais. Et moi, ce qui m'inquiète dans la démarche du ministre, c'est que ce qu'on entend, c'est qu'on va limiter le nombre de places dans les cégeps anglophones aux gens qui ne sont pas anglophones de souche. Donc, il va avoir un nombre limité pour les allophones et les francophones. Donc, pour les enfants de la loi 101.
Oui, vas-y.
C'est que tu es en train d'accentuer le contingentement dans les cégeps anglais et tu vas ouvrir le gouffre pour en faire vraiment des écoles d'élite et tu vas davantage appauvrir le réseau français des cégeps.
Et on l'a vu, là, tu citais ces études-là là, sur le français au Québec et surtout à Montréal. L'heure n'est pas aux demi-mesures. Là. La situation, elle est urgente, puis ça prend des mesures drastiques. Là.
Oui, ça prend des mesures drastiques, mais qui vont au-delà. D'un, il faut régler fondamentalement le problème de la francisation des immigrants, qui est un échec retentissant. Mmh. Mais les études démontrent aussi que même si, objectivement, on faisait venir 100% d'immigrants francophones au Québec, ça ne suffirait pas à freiner le déclin du français. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est que faut arrêter de blâmer les immigrants là, puis l'immigration pour le déclin du français. Ce que ça nous dit, c'est que c'est un réengagement de l'ensemble de la société francophone, francophile, au sein du Québec qui est exigé. Et c'est ce désengagement des francophones face à la protection de la langue qui a causé une partie du déclin. Moi, quand je vois que 60% des gens à Montréal travaillent en anglais, utilisent l'anglais au travail pour le service à la clientèle, c'est parce qu'il y a plein de monde qui ne se donne pas la peine de parler français, et parce que leurs collègues préfèrent parler anglais.
Bien oui,
moi, je suis obligée de faire ça à Ottawa quand je suis dans une mer d'anglophones. Ça va. Mais ça ne devrait pas être le cas au Québec. Et ça reflète à quel point l'idée du français comme langue de travail s'est étiolée.
On a baissé les bras, malheureusement, et on récolte ce qu'on a semé. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonne journée.
Ça fait plaisir, au revoir.
Salut, merci. Benoît, le gars qui avait tiré près de la tour de l'horloge dans le Vieux-Montréal.
Oui.
Tu viens, il fut une fusillade alors qu'il y avait plein de gens. Il a tiré à quelques centimètres de la face de son ami pour lui faire peur. Mm. Il est mort d'une overdose d'héroïne en prison.
Ben oui.
As-tu braillé?
J'ai d'autres nouvelles pour toi.
Ouais,
le 19 avril, t'es-tu libre? Autour de, j'ai besoin d'un accompagnateur. Veux-tu m'accompagner?
Tu te fais vacciner?
Ben oui, ils viennent d'annoncer ça ce matin.
Hein?
Fait que là, le 19 avril, j'ai un rendez-vous à 2h l'après-midi. Je finis l'émission.
Même en Montérégie?
Même en Montérégie. Ça veut dire qu'on a des vaccins partout. Il va en avoir...
C'est grâce aux Montréalais qui se font pas vacciner.
Exactement.
Fait que là, on vous a envoyé les doses qu'on utilise.
Les rognures, les restants. C'est nous autres. Ça s'en vient. Je pense que c'est les vaccins de Trois-Rivières qui nous envoient. Mais là, non, c'est pas d'accord. Tantôt, à midi, on va parler des boissons énergisantes avec le docteur Sénéchal.
On en buvait jusqu'à 11 par jour.
Ouais, mais tu sais, écoute, ça revient. C'est une nouvelle qui revient fréquemment, là. T'sais, des jeunes. Moi, j'ai vu ce matin un jeune de 21 ans, en 2015, je pense, 2014, qui en prenait, il plonge à un moment donné, puis il remonte pas parce qu'il fait une crise cardiaque. Santé Canada a établi les effets indésirables. Il parle de 143 effets indésirables. Il me semble qu'il est temps qu'on... Allez voir le site de Coca-Cola. Énergie, en anglais, Energy. Coca-Cola Energy. .ca, d'entier. Allez voir ça, là, comment il attire les jeunes. Puis jamais, je pense qu'il faudrait mettre sur les canettes les effets secondaires.
Je suis allé dans un bar à un moment donné à Québec.
Oh boy, ça fait longtemps de ça.
Et ça fait longtemps de ça. Et j'avais pris les gens me disaient, hey, tu devrais boire ça, une vodka Red Bull. OK? Et le barman te le mélange pas, puis tu n'as pas le droit de te vendre ça. Fait qu'il donne la Red Bull, puis il donne la vodka, puis c'est toi qui fais le mélange.
Okay.
J'en ai bu deux. Je me suis réveillé dans ma chambre d'hôtel. J'ai aucune idée comment je me suis rendu là. Blackout total.
Hein?
C'est le extrêmement
sucre,
dangereux.
Le sucre est hallucinant. Bon,
c'est délirant. Là.
Ouais.
Il y en a 11 par jour. Ses parents, je disais tantôt aussi qu'ils étaient ses parents, mais ils ont essayé de la sortir de là, mais c'est une addiction qu'elle avait. Là. Elle était accro. Là.
OK. Fait que tantôt, on va... Non, mais c'est parce que moi, je vois ma fille, je veux pas blâmer les parents, là, tu sais, mais ça, tu sais, c'est comme, regardez où est-ce qu'ils vont sur Internet, regardez avec qui ils jouent sur Internet, tu sais, à 11 ans, 12 ans, là, allez voir, là, ouvrez l'ordinateur, puis regardez ce qu'ils boivent chaque jour, parce que là, à un moment donné, ils partent sur le trip de sucre, là, ils leur prennent du sucre... C'est comme le diable de Tasmanie, Calvaire. Ils peuvent plus se passer de sucre. C'est notre job.
La patate comme doit y aller en maudit après.
Mais c'est notre job comme parent. On peut pas toujours dire, ben là, j'ai pas été capable. Ben là, je savais pas. C'est ta job comme parent de protéger les enfants contre les compagnies crapules qui leur vendent de la cochonnerie qui nuit à leur santé. C'est-tu compliqué? C'est ça la job d'être parent. À 11h, justement, on va avoir une mère qui cherche de la place en garderie. Là, ça a l'air qu'ils se donnent des pots de vin dans les garderies pour avoir une place.
Ah oui?
Puis tantôt...
En dessous de la table?
Ou au-dessus, ou sur la table allongée. Tu sais, c'est tu choisis. Tantôt, après cette pause, directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver, Brian Conway, sera avec nous. T'as vu les Canucks? 17 sont 20 dans l'équipe. 17 joueurs, 3 membres du personnel, COVID. Là, ça tue l'amour.
Aïe, aïe.
Ouais. Fait que tu vas pas prendre ta douche dans le vestiaire des Canucks.
Ben, Christy.
Conclusion.
J'irai pas.
Vas-y pas, saute une journée, ça, c'est pas grave.
J'irai pas.
On va se faire aller.
On va t'écouter. Qui t'a sur les boissons?
T'as-tu acheté un singe? T'es-tu sérieux? Ben oui, j'ai acheté un... Ben où est-ce qu'il va coucher? Ben entre nous, pis l'odeur, ben il fera comme moi, il va s'habituer.
Brum, brum.
Ah, Lucien Boyer, mesdames et messieurs.
Écoute, t'as-tu écouté mon conseil, là?
De?
Je te l'ai-tu envoyé?
Lequel?
D'écouter Blanche Gardin.
Non.
Sur Netflix.
Tu m'as pas envoyé ça.
Deux spectacles d'une humoriste française, Blanche Gardin.
Ah oui, à voir?
Non, mais c'est la meilleure humoriste au monde.
C'est vrai.
C'est Louis C.K. D'ailleurs, c'est sa blonde.
À Louis C.K.?
C'est la blonde de Louis C.K., c'est une française.
Qui se branlait devant des femmes qui voulaient pas le voir se branler?
Ben oui, elle a décidé que ça voulait l'avoir comme chum.
Ouais. Pas moi de juger.
Mais elle est bonne. Tabarnouche.
C'est vrai?
Bonne.
Non, c'est pas à moi de t'envoyer ça.
Elle est bonne.
As-tu d'autres amis?
Elle a des gags, là, je vais te dire, hallucinants. Tu sais, comme
elle
dit.
En jouer des extraits?
Je lui dis, en début d'émission, elle dit, c'est niaiseux, les antisémites aujourd'hui. Elle dit, voyons donc, en 2021. Ouais, c'est bien, c'est plus les juifs qui rentrent tout, c'est les PD. C'est drôle, en maudit. Il faut prendre ça au deuxième degré.
Non, pas, ouais. Ah, ça fait de la peine.
Ben oui, là, ça fait de la peine. Alors, on va t'écouter, c'est gratuit, bien sûr. Enfin, et donc, moi, je remercie, parce que moi, j'ai besoin d'une équipe pour faire un show. Sinon,
mais tu peux faire ça le vendredi. Moi, je fais ça le vendredi. Parce qu'à tous les jours, c'est comme ça manque de vérité.
Non.
Non, c'est comme si tu le faisais pour t'en débarrasser un peu.
Non. T'es en train de parler de quoi exactement, là? Peut-être que tu fais ça pour t'en débarrasser, toi, je sais pas. Tu fais ça tous les jours, toi?
Ben non.
OK, mais merci beaucoup à la recherche Carl Marchand et Maude Boutet à la console réalisation.
C'est sa fête hier à Maude.
C'est vrai?
Ben oui. Bonne fête, Maude.
Bonne fête, Maude. Et Jean-François Roy à la console et Sébastien Lapérière, le gars de Trois-Rivières. Ah, on se reparle demain, 8 h, demain matin, puis on écoute Benoît.